This October, Tanger invites you to shop pink and save lives. Your donation of $10 or more to the Breast Cancer Research Foundation helps fuel innovative research that brings us closer to a cure. It also unlocks exclusive savings from brands like Coach, Crocs, Columbia Factory Store, and more to shop all month long. Join us as we mark 30 years of advancing research and empowering hope. Donate and access your exclusive savings today at Tanger.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Chapitre 1 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. Hop, c'est le nom égyptien de la ville que l'Antiquité appelait Thèbes aux 100 portes ou Diospolis Magna, semblait endormie sous l'action dévorante d'un soleil de plomb. Il était midi. Une lumière blanche tombait du ciel pâle sur la terre pâmée de chaleur. Le sol brillanté de réverbération luisait comme du métal fourbi, et l'ombre ne traçait plus au pied des édifices qu'un mince filet bleuâtre, pareil à la ligne d'encre dont un architecte dessine son plan sur le papyrus. Les maisons, aux murs légèrement inclinés en talus, flamboyaient comme des briques au four. Les portes étaient closes, et aux fenêtres, fermées de stores en roseaux clissés, nulle tête n'apparaissait. Au bout des rues désertes et au-dessus des terrasses se découpait, dans l'air d'une incandescente pureté, la pointe des obélisques, le sommet des pylônes, l'entablement des palais et des temples, dont les chapiteaux, à face humaine ou à fleur de lotus, émergeaient à demi, rompant les lignes horizontales des toits et s'élevant comme des écueils parmi l'amas des édifices privés. De loin en loin, par-dessus le mur d'un jardin, quelques palmiers dardaient son fût écaillé, terminé par un éventail de feuilles dont pas une ne bougeait, car nul souffle n'agitait l'atmosphère. Des acacias, des sycomores et des figuiers de Pharaon déversaient une cascade de feuillage, tachant d'une étroite ombre bleue la lumière étincelante du terrain. Ces touches vertes animaient et rafraîchissaient l'aridité solennelle du tableau, qui, sans elles, eût présenté l'aspect d'une ville morte. Quelques rares esclaves de la race Nahasi, au teint noir, au masque simiesque, à l'allure bestiale, bravant seuls l'ardeur du jour, portaient chez leur maître l'eau puisée au Nil dans des jarres suspendues à un bâton posé sur l'épaule. Quoiqu'ils n'eussent pour vêtements qu'un caleçon rayé bridant sur les hanches, leurs torses brillants et polis comme du basalte ruisselaient de sueur, et ils hâtaient le pas pour ne pas brûler la plante épaisse de leurs pieds, aux dalles chaudes comme le pavé d'une étuve. Les matelots dormaient dans le naos de leur cange, amarrés au quai de briques du fleuve, sûrs que personne ne les éveillerait pour passer sur l'autre rive, au quartier des Memnonia. Au plus haut du ciel tournoyaient des gypaètes dont le silence général permettait d'entendre le piaulement aigu qui, à un autre moment du jour, se fût perdu dans la rumeur de la cité. Sur les corniches des monuments, deux ou trois ibis, une patte repliée sous le ventre, le bec enfoui dans le jabot, semblaient méditer profondément et dessinaient leurs silhouettes grêles sur le bleu calciné et blanchissant qui leur servait de fond. Cependant, tout ne dormait pas dans Thèbes. Des murs d'un grand palais, dont l'entablement orné de palmettes traçait sa longue ligne droite sur le ciel enflammé, sortait comme un vague murmure de musique. Ces bouffées d'harmonie se répandaient de temps à autre à travers le tremblement diaphane de l'atmosphère où l'œil eût pu suivre presque leurs ondulations sonores. Étouffée par l'épaisseur des murailles, comme par une sourdine, la musique avait une douceur étrange. C'était un chant d'une volupté triste, d'une langueur exténuée, exprimant la fatigue du corps et le découragement de la passion. on y pouvait deviner aussi l'ennui lumineux de l'éternel azur, l'indéfinissable accablement des pays chauds. En longeant cette muraille, l'esclave, oubliant le fouet du maître, suspendait sa marche et s'arrêtait pour aspirer, l'oreille tendue, ce chant imprégné de toutes les nostalgies secrètes de l'âme et qui le faisait songer à la patrie perdue, aux amours brisés et aux insurmontables obstacles du sort. D'où venait-il ce chant, ce soupir exhalé à petit bruit dans le silence de la ville? Quelle âme inquiète veillait lorsque tout dormait autour d'elle? La façade du palais, tournée vers une place assez vaste, avait cette rectitude de ligne et cette assiette monumentale, type de l'architecture égyptienne civile et religieuse. Cette habitation ne pouvait être que celle d'une famille princière ou sacerdotale. On le devinait au choix des matériaux, au soin de la bâtisse, à la richesse des ornements. Au centre de la façade s'élevait un grand pavillon flanqué de deux ailes et surmonté d'un toit formant un triangle écimé. Une large moulure à la gorge profondément évidée et d'un profil saillant terminait la muraille, où l'on ne remarquait d'autre ouverture qu'une porte, non pas placée symétriquement au milieu, mais dans le coin du pavillon, sans doute pour laisser leur liberté de développement aux marches de l'escalier intérieur. Une corniche, du même style que l'entablement, couronnait cette porte unique. Le pavillon saillait en avant d'une muraille à laquelle s'appliquaient, comme des balcons, deux étages de galeries, espèces de portiques ouverts, faits de colonnes d'une fantaisie architecturale singulière. Les bases de ces colonnes représentaient d'énormes boutons de lotus, dont la capsule, se déchirant en lobes dentelés, laissait jaillir comme un pistil gigantesque la hampe renflée du bas, amenuisée du haut, étranglée sous le chapiteau par un collier de moulures et se terminant en fleurs épanouies. Entre les larges baies des entrecolonnements, on apercevait de petites fenêtres à deux vantaux garnies de verres de couleur. Au-dessus régnait un toit en terrasse dallé d'énormes pierres. Dans ces galeries extérieures, de grands vases d'argile, frottés en dedans d'amandes amères, bouchés de tampons de feuillage et posés sur des trépieds de bois, rafraîchissaient l'eau du Nil au courant d'air. Des guéridons supportaient des pyramides de fruits, des gerbes de fleurs et des coupes à boire de différentes formes, car les Égyptiens aiment à manger en plein air et prennent, pour ainsi dire, leur repas sur la voie publique. De chaque côté de cet avant-corps s'étendaient des bâtiments n'ayant qu'un rez-de-chaussée et formés d'un rang de colonnes engagées à mi-hauteur dans une muraille divisée en panneaux, de manière à former autour de la maison un promenoir abrité contre le soleil et les regards. Toute cette architecture, égayée de peintures ornementales, car les chapiteaux, les fûts, les corniches, les panneaux étaient coloriés, produisait un effet heureux et splendide. En franchissant la porte, on entrait dans une vaste cour entourée d'un portique quadrilatéral, soutenu par des piliers ayant pour chapiteau quatre têtes de femmes aux oreilles de vache, aux longs yeux bridés, au nez légèrement camard, au sourire largement épanoui, coiffé d'un épais bourrelet rayé qui supportait un dé de granit. Sous ce portique s'ouvraient les portes des appartements où ne pénétrait qu'une lumière adoucie par l'ombre de la galerie. Au milieu de la cour scintillait sous le soleil une pièce d'eau bordée d'une marge en granit de Sienne et sur laquelle s'étalaient les larges feuilles taillées en cœur de lotus dont les fleurs roses ou bleues se fermaient à demi, comme pâmées de chaleur, malgré l'eau où elles baignaient. Dans les plates-bandes encadrant le bassin étaient plantées des fleurs disposées en éventail sur de petits monticules de terre et, par les étroits chemins tracés entre les touffes, se promenaient avec précaution deux cigognes familières, faisant de temps à autre claquer leur long bec et palpiter leurs ailes, comme si elles voulaient s'envoler. Aux angles de la cour, quatre grands perséas tordaient leurs troncs et découpaient leurs masses de feuillage d'un vert métallique. Au fond, une espèce de pylône interrompait le portique et sa large baie encadrant l'air bleu laissait apercevoir au bout d'un long berceau de treilles un kiosque d'été d'une construction aussi riche qu'élégante. Dans les compartiments tracés à droite et à gauche de la tonnelle par des arbres nains taillés en cône, verdoyaient des grenadiers, des sycomores, des tamarisques, des périplocas, des mimosas, des acacias, dont les fleurs brillaient comme des étincelles coloriées sur le fond intense du feuillage dépassant la muraille. La musique faible et douce dont nous avons parlé sortait d'une des chambres ouvrant leurs portes sous le portique intérieur. Quoique le soleil donnât en plein dans la cour, dont le sol brillait inondé d'une lumière crue, une ombre bleue et fraîche, transparente dans son intensité, baignait l'appartement où l'œil, aveuglé par les ardentes réverbérations, cherchait d'abord les formes et finissait par les démêler lorsqu'il s'était habitué à ce demi-jour. Une teinte lilas tendre colorait les parois de la chambre, autour de laquelle régnait une corniche enluminée de tons éclatants et fleurie de palmettes d'or. Des divisions architecturales heureusement combinées traçaient sur ces espaces plans des panneaux qui encadraient des dessins, des ornements, des gerbes de fleurs, des figures d'oiseaux, des damiers de couleurs contrastées et des scènes de la vie intime. Au fond, près de la muraille, se dessinait un lit de forme bizarre, représentant un bœuf coiffé de plumes d'autruche, un disque entre les cornes, aplatissant son dos pour recevoir le dormeur ou la dormeuse sur son mince matelas rouge, arc-boutant contre le sol, en manière de pied, ses jambes noires terminées par des sabots verts et retroussant sa queue divisée en deux flocons. Ce quadrupède lit, cet animal meuble, eût paru étrange en tout autre pays que l'Égypte, où les lions et les chacals se laissent également arranger en lit par le caprice de l'ouvrier. Devant cette couche était placé un escabeau à quatre marches, pour y monter, à la tête, un chevet d'albâtre oriental, destiné à soutenir le col sans déranger la coiffure, se creusait en demi-lune. Au milieu, une table de bois précieux travaillée avec un soin charmant posait son disque sur un socle évidé. Différents objets l'encombraient. Un pot de fleurs de lotus, un miroir de bronze poli à pied d'ivoire, une buire d'agate rubanée pleine de poudre d'antimoine, une spatule à parfum en bois de sycomore, formée par une jeune fille nue jusqu'aux reins, allongée dans une position de nage et semblant vouloir soutenir sa cassolette au-dessus de l'eau. Près de la table, sur un fauteuil en bois doré, réchampi de rouge, aux pieds bleus, aux bras figurés par des lions, recouverts d'un épais coussin à fond pourpre étoilé d'or et quadrillé de noir, dont le bout débordait en volute par-dessus le dossier, était assise une jeune femme, ou plutôt une jeune fille, d'une merveilleuse beauté, dans une gracieuse attitude de nonchalance et de mélancolie. Ses traits, d'une délicatesse idéale, offraient le plus pur type égyptien, et souvent les sculpteurs avaient dû penser à elle en taillant les images d'Isis et d'Hathor, au risque d'enfreindre les rigoureuses lois hiératiques. Des reflets d'or et de rose coloraient sa pâleur ardente, où se dessinaient ses longs yeux noirs, agrandis par une ligne d'antimoine et alanguis d'une indicible tristesse. Ce grand œil sombre, aux sourcils arqués et aux paupières teintes, prenait une expression étrange dans ce visage mignon, presque enfantin. La bouche mi-ouverte, colorée comme une fleur de grenade, laissait briller entre ses lèvres, un peu épaisses, un éclair humide de nacre bleuâtre, et gardait ce sourire involontaire et presque douloureux qui donne un charme si sympathique aux figures égyptiennes. Le nez, légèrement déprimé à la racine, à l'endroit où les sourcils se confondaient dans une ombre veloutée, se relevait avec des lignes si pures, des arêtes si fines, et découpait ses narines d'un trait si net que toute femme ou toute déesse s'en serait contentée. Malgré son profil imperceptiblement africain, le menton s'arrondissait par une courbe d'une élégance extrême et brillait poli comme l'ivoire. Les joues, un peu plus développées que chez les beautés des autres peuples, prêtaient à la physionomie une expression de douceur et de grâce d'un charme extrême. Cette belle fille avait pour coiffure une sorte de casque formé par une pintade dont les ailes à demi déployées s'abattaient sur ses tempes et dont la jolie tête effilée s'avançait jusqu'au milieu de son front, tandis que la queue, constellée de points blancs, se déployait sur sa nuque. Une habile combinaison d'émail imitait à s'y tromper le plumage ocellé de l'oiseau. Des pennes d'autruche, implantées dans le casque comme une aigrette, complétaient cette coiffure réservée aux jeunes vierges, de même que le vautour, symbole de la maternité, n'appartient qu'aux femmes. Les cheveux de la jeune fille, d'un noir brillant, tressés en fines nattes, se massaient de chaque côté de ses joues rondes et lisses, dont ils accusaient le contour, et s'allongeaient jusqu'aux épaules. Dans leur ombre luisaient, comme des soleils dans un nuage, de grands disques d'or en façon de boucles d'oreilles. De cette coiffure partaient deux longues bandes d'étoffe au bout frangé, qui retombaient avec grâce derrière le dos. Un large pectoral composé de plusieurs rangs d'émaux, de perles d'or, de grains de cornaline, de poissons et de lézards en or estampé, couvrait la poitrine de la base du col à la naissance de la gorge, qui transparaissait rose et blanche à travers la trame aérienne de la calasiris. La robe, quadrillée de larges carreaux, se nouait sous le sein au moyen d'une ceinture à bout flottant et se terminait par une large bordure à raies transversales garnie de franges. De triples bracelets en grains de lapis-lazuli, striés de distance en distance d'une rangée de perles d'or, cerclaient ses poignets minces, délicats comme ceux d'un enfant. Et ses beaux pieds étroits, aux doigts souples et longs, chaussés de tadbeb en cuir blanc gaufré de dessins d'or, reposaient sur un tabouret de cèdre incrusté d'émaux verts et rouges. Près de Tahoser, c'est le nom de la jeune égyptienne, se tenait agenouillée, une jambe repliée sous la cuisse et l'autre formant un angle obtus, dans cette attitude que les peintres aiment à reproduire au mur des hypogées, une joueuse de harpe posée sur une espèce de socle bas, destinée sans doute à augmenter la résonance de l'instrument. Un morceau d'étoffe rayé de bandes de couleur et dont les bouts rejetés en arrière flottaient en barbe cannelée, contenait ses cheveux et encadrait sa figure souriante et mystérieuse comme un masque de sphinx. Une étroite robe, ou, pour mieux dire, un fourreau de gaze transparente, moulait exactement les contours juvéniles de son corps élégant et frêle. Cette robe, coupée au-dessous du sein, laissait les épaules, la poitrine et les bras libres dans leur chaste nudité. Un support, fiché dans le socle sur lequel était placée la musicienne et traversé d'une cheville en forme de clé, servait de point d'appui à la harpe dont, sans cela, le poids eût pesé tout entier sur l'épaule de la jeune femme. Cette harpe, terminée par une sorte de table d'harmonie, arrondie en conque et coloriée de peintures ornementales, portait, à son extrémité supérieure, une tête sculptée d'Hâthor surmontée d'une plume d'autruche. Les cordes, au nombre de 9, se tendaient diagonalement et frémissaient sous les doigts longs et menus de la harpiste, qui souvent, pour atteindre les notes graves, se penchait avec un mouvement gracieux, comme si elle eût voulu nager sur les ondes sonores de la musique et accompagner l'harmonie qui s'éloignait. Derrière elle, une autre musicienne debout, qu'on aurait pu croire nue sans le léger brouillard blanc qui atténuait la couleur bronzée de son corps, jouait d'une espèce de mandore aux manches démesurément longs, dont les trois cordes étaient coquettement ornées, à leur extrémité, de houppes de couleur. Un de ses bras, mince et rond cependant, s'allongeait jusqu'au haut du manche avec une pose sculpturale, tandis que l'autre soutenait l'instrument et agaçait les cordes. Une troisième jeune femme, que son énorme chevelure faisait paraître encore plus fluette, marquait la mesure sur un tympanon formé d'un cadre de bois légèrement infléchi en dedans et tendu de peau d'onagre. La joueuse de harpe chantait une mélopée plaintive, accompagnée à l'unisson, d'une douceur inexprimable et d'une tristesse profonde. Les paroles exprimaient de vagues aspirations, des regrets voilés, un hymne d'amour à l'inconnu et des plaintes timides sur la rigueur des dieux et la cruauté du sort. Tahoser, le coude appuyé sur un des lions de son fauteuil, la main à la joue et le doigt retroussé contre la tempe, écoutait avec une distraction plus apparente que réelle le chant de la musicienne. Parfois, un soupir gonflait sa poitrine et soulevait les émaux de son gorgerin. Parfois, une lueur humide, causée par une larme qui germait, lustrait le globe de son œil entre les lignes d'antimoine, et ses petites dents mordaient sa lèvre inférieure comme si elle se fût rebellée contre son émotion. « Satou !» fit-elle en frappant l'une contre l'autre ses mains délicates pour imposer silence à la musicienne, qui étouffa aussitôt avec sa paume les vibrations de la harpe, « ton chant m'énerve, m'alanguit et me ferait tourner la tête comme un parfum trop fort. Les cordes de ta harpe semblent tordues avec les fibres de mon cœur et me résonnent douloureusement dans la poitrine. Tu me rends presque honteuse, car c'est mon âme qui pleure à travers ta musique. Et qui peut t'en avoir dit les secrets ?»« Maîtresse, répondit la harpiste, le poète et le musicien savent tout. Les dieux leur révèlent les choses cachées. Ils expriment dans leur rythme ce que la pensée conçoit à peine et ce que la langue balbutie confusément. Mais si mon chant t'attriste, je puis, en changeant de mode, faire naître des idées plus riantes dans ton esprit. » Et Satou attaqua les cordes de sa harpe avec une énergie joyeuse et un rythme vif que le tympanon accentuait de coups pressés. Après ce prélude, elle entonna un chant célébrant les charmes du vin, l'enivrement des parfums et le délire de la danse. Quelques-unes des femmes qui, assises sur ces pliants à col de cygne bleu, dont le bec jaune mord les bâtons du siège, ou agenouillées sur des coussins écarlates gonflés de barbes de chardon, gardaient, sous l'influence de la musique de Satou, des poses d'une langueur désespérée, frissonnèrent, ouvrirent les narines, aspirèrent le rythme magique, se dressèrent sur leurs pieds, et, mus d'une impulsion irrésistible, se mirent à danser. Une coiffure en forme de casque échancrée à l'oreille enveloppait leur chevelure, dont quelques spirales s'échappaient et flagellaient leurs joues brunes, où l'ardeur de la danse mit bientôt des couleurs roses. De larges cercles d'or battaient leur col, et à travers leurs longues chemises de gaze, brodées de perles par en haut, on voyait leur corps couleur de bronze jaune doré s'agiter avec une souplesse de couleuvre. Elles se tordaient, se cambraient, remuaient leurs hanches cerclées d'une étroite ceinture, se renversaient, prenaient des attitudes penchées, inclinaient la tête à droite et à gauche, comme si elles eussent trouvé une volupté secrète à frôler de leur menton poli leur épaule froide et nue, se rengorgeaient comme des colombes, s'agenouillaient et se relevaient, serraient les mains contre leur poitrine ou déployaient moelleusement leurs bras, qui semblaient battre des ailes comme ceux d'Isis et de Nyphtis, traînaient leurs jambes, ployaient leurs jarrets, déplaçaient leurs pieds agiles par de petits mouvements saccadés et suivaient toutes les ondulations de la musique. Les suivantes, debout contre la muraille, pour laisser le champ libre aux évolutions des danseuses, marquaient le rythme en faisant craquer leurs doigts ou en frappant l'une contre l'autre la paume de leurs mains. Celles-ci, entièrement nues, n'avaient pour ornement qu'un bracelet en pâte émaillée. Celles-là, vêtues d'un pagne étroit retenu par des bretelles, portaient pour coiffure quelques brins de fleurs tordues. C'était étrange et gracieux. Les boutons et les fleurs, doucement agités, répandaient leurs parfums à travers la salle, et ces jeunes femmes couronnées eussent pu offrir au poète d'heureux sujets de comparaison. Mais Satou s'était exagéré la puissance de son art. Le rythme joyeux semblait avoir accru la mélancolie de Tahoser. Une larme roulait sur sa belle joue, comme une goutte d'eau du Nil sur un pétale de nymphéa, et, cachant sa tête contre la poitrine de la suivante favorite, qui se tenait accoudée au fauteuil de sa maîtresse, elle murmura dans un sanglot, avec un gémissement de colombe étouffée. « Oh, ma pauvre Nofré, je suis bien triste et bien malheureuse. » Fin du chapitre 1, enregistré par Nadine Coeur-de-Boulay à Copenhague en mai 2011. Chapitre 2 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. Nofré fit un signe, pressentant une confidence. La harpiste, les deux musiciennes, les danseuses et les suivantes se retirèrent silencieusement à la file, comme les figures peintes sur les fresques. Lorsque la dernière eut disparu, la suivante favorite dit à sa maîtresse d'un ton câlin et compatissant, comme une jeune mère qui berce les petits chagrins de son nourrisson, « Qu'as-tu, chère maîtresse, pour être triste et malheureuse? N'es-tu pas jeune, belle à faire envie aux plus belles, libre? Et ton père, le grand prêtre Pétamounoff, dont la momie ignorée repose dans un riche tombeau, ne t'a-t-il pas laissé de grands biens dont tu disposes à ton gré? Ton palais est très beau, tes jardins sont très vastes et arrosés d'eau transparente. Tes coffres de pâte émaillée et de bois de sycomore contiennent des colliers, des pectoraux, des gorgerins, des anneaux pour les jambes, des bagues aux chatons finement travaillés. Tes robes, tes calasiris, tes coiffures dépassent le nombre des jours de l'année. Opimou, le père des eaux, recouvre régulièrement de sa vase féconde tes domaines, dont un gypaète volant à tire-d'aile ferait à peine le tour d'un soleil à l'autre. Et ton cœur, au lieu de s'ouvrir joyeusement à la vie comme un bouton de lotus au mois d'Hâthor ou de Choïac, se referme et se contracte douloureusement. » Tahoser répondit à Nofré. « Oui, certes, les dieux des zones supérieures m'ont favorablement traité, mais qu'importe toutes les choses qu'on possède, si l'on n'a pas la seule qu'on souhaite. Un désir non satisfait rend le riche aussi pauvre dans son palais doré et peint de couleurs vives, au milieu de ses amas de blé, d'aromates et de matières précieuses, que le plus misérable ouvrier des Memnonia, qui recueille avec de la sciure de bois le sang des cadavres, ou que le nègre demi-nu, manœuvrant sur le Nil sa frêle barque de papyrus à l'ardeur du soleil de midi. » Nofré sourit et dit d'un air d'imperceptible raillerie, « Est-il possible, ô maîtresse, qu'un de tes caprices ne soit pas réalisé sur le champ? Si tu rêves d'un bijou, tu livres à l'artisan un lingot d'or pur, des cornalines, du lapis-lazuli, des agates, des hématites, et il exécute le dessin souhaité. Il en est de même pour les robes, les chars, les parfums, les fleurs et les instruments de musique. Tes esclaves, de Philoé à Héliopolis, cherchent pour toi ce qu'il y a de plus beau, de plus rare. Si l'Égypte ne renferme pas ce que tu souhaites, les caravanes te l'apportent du bout du monde. » La belle Tahoser secoua sa jolie tête et parut impatientée du peu d'intelligence de sa confidente. « Pardon, maîtresse, » dit Nofré, se ravisant et comprenant qu'elle avait fausse route, « je ne songeais pas que depuis 4 mois bientôt le pharaon est parti pour l'expédition de l'Éthiopie supérieure et que le bel Oéris, officier, qui ne passait pas sous ta terrasse sans lever la tête et ralentir le pas, accompagne sa majesté. Qu'il avait bonne grâce en son costume militaire, qu'il était beau, jeune et vaillant. » Comme si elle eût voulu parler, Tahoser ouvrit à demi ses lèvres roses. Mais un léger nuage de pourpre se répandit sur ses joues, elle pencha la tête, et la phrase prête à s'envoler ne déploya pas ses ailes sonores. La suivante crut qu'elle avait touché juste et continua. « En ce cas, maîtresse, ton chagrin va cesser. Ce matin, un coureur haletant est arrivé, annonçant la rentrée triomphale du roi avant le coucher du soleil. N'entends-tu pas déjà 1000 rumeurs bourdonner confusément dans la cité qui sort de sa torpeur méridienne? Écoute, les roues des chars résonnent sur les dalles des rues, et déjà le peuple se porte en masse compacte vers la rive du fleuve pour le traverser et se rendre au champ de manœuvre. Secoue ta langueur, et toi aussi viens voir ce spectacle admirable. Quand on est triste, il faut se mêler à la foule. La solitude nourrit les pensées sombres. Du haut de son char de guerre, Amosis te décochera un gracieux sourire, et tu rentreras plus gai à ton palais. » « Amosis m'aime, répondit Tahoser, mais je ne l'aime pas. » « Propos de jeune vierge, répliqua Nofré, à qui le beau chef militaire plaisait fort, et qui croyait jouer la nonchalance dédaigneuse de Tahoser. En effet, Amosis était charmant. Son profil ressemblait aux images des dieux taillées par les plus habiles sculpteurs. Ses traits fiers, réguliers, égalaient en beauté ceux d'une femme. Son nez légèrement aquilin, ses yeux d'un noir brillant, agrandis d'antimoine, ses joues aux contours polis, d'un grain aussi doux que celui de l'albâtre oriental, ses lèvres bien modelées, l'élégance de sa haute taille, son buste aux épaules larges, aux hanches étroites, ses bras vigoureux où cependant nul muscle ne faisait saillir son relief grossier, avait tout ce qu'il faut pour séduire les plus difficiles. Mais Tahoser ne l'aimait pas, quoi qu'en pensât Nofré. Une autre idée qu'elle n'exprima pas, car elle ne croyait pas Nofré capable de la comprendre, détermina la jeune fille. Elle secoua sa nonchalance, quitta son fauteuil avec une vivacité qu'on n'aurait pas attendue d'elle, à l'attitude brisée qu'elle avait gardée pendant les chœurs et les danses. Nofré, agenouillée à ses pieds, lui chaussa des espèces de patins au bec recourbé, jeta de la poudre odorante sur ses cheveux, tira d'une boîte quelques bracelets en forme de serpent, quelques bagues ayant pour chaton le scarabée sacré, lui mit aux joues un peu de fard vert, que le contact de la peau fit immédiatement rosir, polit ses ongles avec un cosmétique, rajusta les plis un peu froissés de sa calasiris, en suivante zélée, qui veut faire paraître sa maîtresse dans tous ses avantages. Puis elle appela deux ou trois serviteurs et leur dit de faire préparer la barque et passer de l'autre côté du fleuve le chariot et son attelage. Le palais, ou, si ce titre semble trop pompeux, la maison de Tahoser, s'élevait tout près du Nil, dont elle n'était séparée que par des jardins. La fille de Pétamounoph, la main posée sur l'épaule de Nofré, précédée de ses serviteurs, suivit jusqu'à la porte d'eau la tonnelle, dont les pampres, tamisant le soleil, bigarraient d'ombre et de clair sa charmante figure. Elle arriva bientôt sur un large quai de briques, où fourmillait une foule immense, attendant le départ ou le retour des embarcations. Hop, la colossale cité, ne renfermait plus dans son sein que les malades, les infirmes, les vieillards incapables de se mouvoir, et les esclaves chargés de garder les maisons. Par les rues, par les places, par les dromos, par les allées de sphinx, par les pylônes, par les quais, coulait un fleuve d'êtres humains se dirigeant vers le Nil. La variété la plus étrange bariolait cette multitude. Les Égyptiens formaient la masse et se reconnaissaient à leur profil pur, à leur taille svelte et haute, à leur robe de fin lin ou à leur calasiris soigneusement plissé. Quelques-uns, la tête enveloppée dans une étoffe à raies bleues ou vertes, les reins serrés d'un étroit caleçon, montraient jusqu'à la ceinture leur torse nu, couleur d'argile cuite. Sur ce fond indigène tranchaient des échantillons divers de races exotiques. Les nègres du Haut-Nil, noirs comme des dieux de basalte, les bras cerclés de larges anneaux d'ivoire et faisant balancer à leurs oreilles de sauvages ornements. Les Éthiopiens bronzés, à la mine farouche, inquiets malgré eux dans cette civilisation, comme des bêtes sauvages au plein jour. Les Asiatiques au teint jaune clair, aux yeux d'azur, à la barbe frisée en spirale, coiffés d'une tiare maintenue par un bandeau, drapés d'une robe à franges chamarrée de broderies. Les pélages vêtus de peaux de bête, rattachés à l'épaule, laissant voir leurs bras et leurs jambes bizarrement tatoués, et portant des plumes d'oiseaux sur leur tête, d'où pendaient deux nattes de cheveux que terminait une mèche aiguisée en accroche-cœur. À travers cette foule s'avançaient gravement des prêtres à la tête rasée, une peau de panthère tournée autour du corps, de façon que le mufle de l'animal simulât une boucle de ceinture, des souliers de byblos aux pieds, à la main une haute canne d'acacia, gravée de caractères hiéroglyphiques, des soldats, leurs poignards à clous d'argent aux côtés, leurs boucliers sur le dos, leurs haches de bronze au poing. Des personnages recommandables, à la poitrine décorée de gorgerins honorifiques, que saluaient bas les esclaves en mettant leurs mains près de terre. Se glissant le long des murs d'un air humble et triste, de pauvres femmes demi-nues cheminaient, courbées sous le poids de leurs enfants, suspendues à leur cou dans des lambeaux d'étoffe ou des couffes de sparterie, tandis que les belles filles, accompagnées de trois ou quatre suivantes, passaient fièrement sous leurs longues robes transparentes nouées au-dessous du sein d'écharpes à bouts flottants, avec un scintillement d'émaux, de perles et d'or, et une fragrance de fleurs et d'aromates. Parmi les piétons filaient des litières portées par des Éthiopiens aux pas rapides et rythmiques. Des chars légers attelés de chevaux fringrants aux têtes empanachées, des chariots à bœufs d'une allure pesante et contenant une famille. À peine si la foule, insouciante d'être écrasée, s'ouvrait pour leur faire place, et souvent les conducteurs étaient obligés de frapper de leur fouet les retardataires ou les obstinés qui ne s'écartaient pas. Un mouvement extraordinaire avait lieu sur le fleuve, couvert, malgré sa largeur, à ne pas en apercevoir l'eau, dans toute la longueur de la ville, de barques de toute espèce, depuis la cange à la proue et à la poupe élevée, aux naos chamarrés de couleurs et de dorures, jusqu'aux minces esquifs de papyrus, tout était employé. On n'avait pas même dédaigné les bateaux à passer le bétail et à transporter les fruits, les radeaux de joncs soutenus par des outres qu'on charge ordinairement de vases d'argile. Ce n'était pas une mince besogne de transvaser d'un bord du fleuve à l'autre une population de plus d'un million d'âmes, et il fallait pour l'opérer toute l'adresse active des matelots de Thèbes. L'eau du Nil, battue, fouettée, divisée par les rames, les avirons, les gouvernails, écumait comme une mer et formait mille remous qui rompaient la force du courant. La structure des barques était aussi variée que pittoresque. Les unes se terminaient à chaque extrémité par une grande fleur de lotus recourbée en dedans et serrée à sa tige d'une cravate de banderoles. Les autres se bifurquaient à la poupe et s'aiguisaient en pointe. Celles-ci s'arrondissaient en croissant et se relevaient au debout. Celles-là portaient des espèces de châteaux ou plateformes où se tenaient debout les pilotes. Quelques-unes consistaient en trois bandes d'écorce reliées avec des cordes et manœuvrées par une pagaie. Les bateaux destinés au transport des animaux et des chars étaient accolés bord à bord et supportaient un plancher sur lequel se remployait un pont volant permettant d'embarquer et de débarquer sans peine. Le nombre en était grand. Les chevaux surpris hennissaient et frappaient le bois de leurs cornes sonores. Les bœufs tournaient avec inquiétude du côté de la rive, leurs mufles lustrés d'où pendaient des filaments de bave et se calmaient sous les caresses des conducteurs. Les contremaîtres marquaient le rythme aux rameurs en heurtant l'une contre l'autre la paume de leurs mains. Les pilotes, juchés sur la poupe ou se promenant sur le toit des naos, criaient leurs ordres, indiquant les manœuvres nécessaires pour se diriger à travers le dédale mouvant des embarcations. Parfois, malgré les précautions, les bateaux se choquaient et les mariniers échangeaient des injures ou se frappaient de leurs rames. Ces milliers de nefs, peintes la plupart en blanc et relevées d'ornements verts, bleus et rouges, chargées d'hommes et de femmes vêtus de costumes multicolores, faisaient disparaître entièrement le Nil sur une surface de plusieurs lieues et présentaient, sous la vive couleur du soleil d'Égypte, un spectacle d'un éclat éblouissant dans sa mobilité. L'eau agitée en tous sens fourmillait, scintillait, miroitait comme du vif argent et ressemblait à un soleil brisé en millions de pièces. Tahoser entra dans sa cange, décorée avec une richesse extrême, dont le centre était occupé par une cabine ou naos à l'entablement surmonté d'une rangée d'uréus, aux angles équarris en piliers, aux parois bariolées de dessins symétriques. Un habitacle à toit aigu chargeait la poupe, contrebalancée à l'autre extrémité par une sorte d'autel enjolivé de peinture. Le gouvernail se composait de deux immenses rames terminées en tête d'Hâthor, noués au col de longs bouts d'étoffe et jouant sur des pieux échancrés. Au mât dressé palpitait, car le vent d'est venait de se lever, une voile oblongue fixée à deux vergues, dont la riche étoffe était brodée et peinte de losanges, de chevrons, de quadrilles, d'oiseaux, d'animaux chimériques aux couleurs éclatantes. À la vergue inférieure pendait une frange de grosses houppes. L'amarre dénouée et la voile tournée au vent, la cange s'éloigna de la rive, divisant de sa proue les agrégations de barques dont les rames s'enchevêtraient et s'agitaient comme des pattes de scarabée retournées sur le dos. Elle filait insouciamment au milieu d'un concert d'injures et de cris. Sa force supérieure lui permettait de dédaigner des chocs qui eussent coulé bas des embarcations plus frêles. D'ailleurs, les matelots de Tahoser étaient si habiles que la cange qu'ils dirigeaient semblait douée d'intelligence, tant elle obéissait avec promptitude au gouvernail et se détournait à propos des obstacles sérieux. Elle eut bientôt laissé derrière elle les bateaux appesantis, dont le naos plein de passagers à l'intérieur était encore chargé sur le toit de trois ou quatre rangées d'hommes, de femmes et d'enfants, accroupis dans l'attitude si chère au peuple égyptien. À voir ces personnages agenouillés ainsi, on les eût pris pour les juges assesseurs d'Osiris, si leur physionomie, au lieu d'expliquer le recueillement propre à des conseillers funèbres, n'eût respiré la gaieté la plus franche. En effet, le pharaon revenait vainqueur et ramenait un immense butin. Thèbes était dans la joie, et sa population tout entière allait au-devant du favori d'Amon-Ra, seigneur des diadèmes, modérateur de la région pure, Haroéris tout-puissant, roi soleil et conculcateur des peuples. La cange de Tahoser atteignit bientôt la rive opposée. La barque qui portait le char aborda presque en même temps. Les bœufs passèrent sur le pont volant et furent placés sous le joug en quelques minutes par les serviteurs alertes débarqués avec eux. Ces bœufs blancs, tachetés de noir, étaient coiffés d'une sorte de tiare recouvrant en partie le joug attaché au timon et maintenu par deux larges courroies de cuir, dont l'une entourait leur col et dont l'autre, reliée à la première, leur passait sous le ventre. Leurs garrots élevés, leurs larges fanons, leurs jarrets secs et nerveux, leurs sabots mignons et brillants comme de l'agate, leurs queues aux flocons soigneusement peignés, montraient qu'ils étaient de race pure et que les pénibles travaux des champs ne les avaient jamais déformés. Ils avaient cette placidité majestueuse d'Apis, le taureau sacré, lorsqu'il reçoit les hommages et les offrandes. Le char, d'une légèreté extrême, pouvait contenir deux ou trois personnes debout. Sa caisse demi-circulaire, couverte d'ornements et de dorures distribués en ligne d'une courbe gracieuse, était soutenue par une sorte d'étançon diagonal dépassant un peu le rebord supérieur et auquel le voyageur s'accrochait de la main lorsque la route était raboteuse ou l'allure de l'attelage rapide. Sur l'essieu, placé à l'arrière de la caisse pour adoucir les cahots, pivotaient deux roues à six rayons que maintenaient des clavettes rivées. Au bout d'une hampe plantée dans le fond du char, s'épanouissait un parasol figurant des feuilles de palmier. Nofré, penché sur le rebord du char, tenait les rênes des bœufs bridés comme des chevaux et conduisait le char suivant la coutume égyptienne, tandis que Tahoser, immobile à côté d'elle, appuyait sa main, constellée de bagues depuis le petit doigt jusqu'au pouce, à la moulure dorée de la conque. Ces deux belles filles, l'une étincelante d'émaux et de pierres précieuses, l'autre à peine voilée d'une transparente tunique de gaze, formaient un groupe charmant sur ce char aux brillantes couleurs. Huit ou dix serviteurs, vêtus d'une cotte à raies obliques, dont les plis se massaient par devant, accompagnaient l'équipage, se réglant sur l'allure des bœufs. De ce côté du fleuve, l'affluence n'était pas moins grande. Les habitants du quartier des Memnonia et des villages circonvoisins arrivaient de leur côté, et à chaque instant les barques, déposant leurs charges sur le quai de briques, apportaient de nouveaux curieux qui épaississaient la foule. D'innombrables chars, se dirigeant vers le champ de manœuvre, faisaient rayonner leurs roues comme des soleils parmi la poussière dorée qu'ils soulevaient. Thèbes, à ce moment, devait être déserte comme si un conquérant eût emmené son peuple en captivité. Le cadre était d'ailleurs digne du tableau. Au milieu de verdoyantes cultures, d'où jaillissaient des aigrettes de palmiers doum, se dessinaient, vivement coloriées, des habitations de plaisance, des palais, des pavillons d'été entourés de sycomores et de mimosas. Des bassins miroitaient au soleil, des vignes enlaçaient leurs festons à des treillages voûtés. Au fond se découpait la gigantesque silhouette du palais Ramsès Meïamoun, avec ses pylônes démesurés, ses murailles énormes, ses mâts dorés et peints, dont les banderoles flottaient au vent. Plus au nord, les deux colosses qui trônent avec une pose d'éternelle impassibilité, montagne de granit à forme humaine, devant l'entrée de l'Aménophium, s'ébauchait dans une demi-teinte bleuâtre, masquant à demi le Ramesséum plus lointain et le tombeau en retraite du grand prêtre, mais laissant entrevoir par un de ses angles le palais de Ménepta. Plus près de la chaîne libyque, le quartier des Memnonia, habité par les Colchites, les Parachistes et les Tarichutes, faisait monter dans l'air bleu les rousses fumées de ses chaudières de natron. Car le travail de la mort ne s'arrête jamais, et la vie a beau se répandre tumultueuse, les bandelettes se préparent, les cartonnages se moulent, les cercueils se couvrent d'hiéroglyphes, et quelques cadavres froids, allongés sur le lit funèbre à pied de lion ou de chacal, attend qu'on lui fasse sa toilette d'éternité. À l'horizon, mais rapprochés par la transparence de l'air, les montagnes libyques découpaient sur le ciel pur leurs dentelures calcaires et leurs masses arides évidées par les hypogées et les syringes. Lorsqu'on se tournait vers l'autre rive, la vue n'était pas moins merveilleuse. Les rayons du soleil coloraient en rose, sur le fond vaporeux de la chaîne arabique, la masse gigantesque du palais du Nord, que l'éloignement pouvait à peine diminuer, et qui dressait ses montagnes de granit, sa forêt de colonnes géantes, au-dessus des habitations à toit plat. Devant le palais s'étendait une vaste esplanade descendant au fleuve par deux escaliers placés à ses angles. Au milieu, un dromos de cryosphinx, perpendiculaire au Nil, conduisait à un pylône démesuré, précédé de deux statues colossales et d'une paire d'obélisques dont les pyramidions, dépassant sa corniche, découpaient leurs pointes couleur de chair sur l'azur uni du ciel. En recul au-dessus de la muraille d'enceinte se présentait par sa face latérale le temple d'Amon. Et plus à droite s'élevaient le temple de Khons et le temple d'Opt. Un gigantesque pylône vu de profil et tourné vers le midi, deux obélisques de 60 coudées de haut, marquaient le commencement de cette prodigieuse allée de 2000 sphinx à corps de lion et à tête de bélier, se prolongeant du palais du Nord au palais du Sud. Sur les piédestaux, l'on voyait s'évaser les croupes énormes de la première rangée de ces monstres tournant le dos au Nil. Plus loin s'ébauchaient vaguement dans une lumière rosée des corniches où le globe mystique déployait ses vastes ailes, des têtes de colosses à figure placide, des angles d'édifices immenses, des aiguilles de granit, des superpositions de terrasses, des bouquets de palmiers, s'épanouissant comme des touffes d'herbe entre ces prodigieux entassements. Et le palais du Sud développait ses hautes parois coloriées, ses mâts pavoisés, ses portes en talus, ses obélisques et ses troupeaux de sphinx. Au-delà, tant que la vue pouvait s'étendre, Hop se déployait avec ses palais, ses collèges de prêtres, ses maisons, et de faibles lignes bleues indiquaient au dernier plan la crête de ses murailles et le sommet de ses portes. Tahoser regardait vaguement cette perspective familière pour elle, et ses yeux distraits n'exprimaient aucune admiration. Mais, en passant devant une maison presque enfouie dans une touffe de luxuriante végétation, elle sortit de son apathie, sembla chercher du regard sur la terrasse et à la galerie extérieure une figure connue. Un beau jeune homme, nonchalamment appuyé à une des colonnettes du pavillon, paraissait regarder la foule. Mais ses prunelles sombres, devant lesquelles semblait danser un rêve, ne s'arrêtèrent pas sur le char qui portait Tahoser et Nofré. Cependant, la petite main de la fille de Pétamounoph s'accrochait nerveusement au rebord du char. Ses joues avaient pâli sous la légère couche de fard dont Nofré les avait peintes, et, comme si elle défaillait, à plusieurs reprises, elle aspira l'odeur de son bouquet de lotus. Fin du chapitre 2. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mai 2011. Chapitre 3 du roman de la momie par Théophile Gautier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Malgré sa perspicacité habituelle, Nofré n'avait pas remarqué l'effet produit sur sa maîtresse par le dédaigneux inconnu. Elle n'avait vu ni sa pâleur suivie d'une rougeur foncée, ni la lueur plus vive de son regard, ni entendu le bruissement des émaux et des perles de ses colliers que soulevait le mouvement de sa gorge palpitante. Il est vrai que son attention tout entière était occupée à diriger son attelage, chose assez difficile parmi les masses de plus en plus compactes de curieux accourus pour assister à la rentrée triomphale du pharaon. Enfin leur char arriva au champ de manœuvre, immense enceinte aplanie avec soin pour le déploiement des pompes militaires. Des terrassements, qui avaient dû employer pendant des années les bras de 30 nations emmenées en esclavage, formaient un cadre en relief au gigantesque parallélogramme. Des murs de briques crues, formant talus, revêtaient ces terrassements. Leurs crêtes étaient garnies, sur plusieurs rangées de profondeur, par des centaines de mille d'Égyptiens dont les costumes blancs ou bigarrés de couleurs vives papillotaient au soleil dans ce fourmillement perpétuel qui caractérise la multitude, même lorsqu'elle semble immobile. En arrière de ce cordon de spectateurs, les chars, les chariots, les litières, gardées par les cochers, les conducteurs et les esclaves, avaient l'aspect d'un campement de peuple en migration, tant le nombre en était considérable. Car Thèbes, la merveille du monde antique, comptait plus d'habitants que certains royaumes. Le sable uni et fin de la vaste arène bordée d'un million de têtes scintillait de points micacés, sous la lumière tombant d'un ciel bleu comme l'émail des statuettes d'Osiris. Sur le côté sud du champ de manœuvre, le revêtement s'interrompait et laissait déboucher dans la place une route se prolongeant vers l'Éthiopie supérieure, le long de la chaîne libyque. À l'angle opposé, le talus coupé permettait au chemin de se continuer jusqu'au palais de Ramsès Meïamoun, en passant à travers les épaisses murailles de briques. La fille de Pétamounoff et Nofré, à qui les serviteurs avaient fait faire place, se tenait à cet angle, sur le sommet du talus, de façon à voir défiler tout le cortège sous leurs pieds. Une prodigieuse rumeur, sourde, profonde et puissante comme celle d'une mer qui approche, se fit entendre dans le lointain et couvrit les mille susurrements de la foule. Ainsi le rugissement du lion fait taire les miaulements d'une troupe de chacals. Bientôt le bruit particulier des instruments se détacha de ce tonnerre terrestre produit par le roulement des chars de guerre et le pas rythmé des combattants à pied. Une sorte de brume roussâtre, comme celle que soulève le vent du désert, envahit le ciel de ce côté, et pourtant la brise était tombée. Il n'y avait pas un souffle d'air, et les branches les plus délicates des palmiers restaient immobiles comme si elles eussent été sculptées dans le granit des chapiteaux. Pas un cheveu ne frissonnait sur la tempe moite des femmes, et les barbes cannelées de leurs coiffures s'allongeaient flasquement derrière leur dos. Ce brouillard poudreux était produit par l'armée en marche et planait au-dessus d'elle comme un nuage fauve. Le tumulte augmentait. Les tourbillons de poussière s'ouvrirent et les premières files de musiciens débouchèrent dans l'immense arène, à la grande satisfaction de la multitude qui, malgré son respect pour la majesté pharaonique, commençait à se lasser d'attendre sous un soleil qui eût fait fondre tout autre crâne que des crânes égyptiens. L'avant-garde des musiciens s'arrêta quelques instants. Des collèges de prêtres, des députations des principaux habitants de Thèbes, traversèrent le champ de manœuvre pour aller au-devant du pharaon et se rangèrent en haie dans les poses du respect le plus profond, de manière à laisser le passage libre au cortège. La musique, qui, à elle seule, eût pu former une petite armée, se composait de tambours, de tambourins, de trompettes et de sistres. Le premier peloton passa, sonnant une retentissante fanfare de triomphe dans ses courts clairons de cuivre brillants comme de l'or. Chacun de ces musiciens portait un second clairon sous le bras, comme si l'instrument avait dû se fatiguer plutôt que l'homme. Le costume de ces trompettes consistait en une sorte de courte tunique serrée par une ceinture dont les larges bouts retombaient par devant. Une bandelette où s'implantaient deux plumes d'autruche divergentes serrait leur épaisse chevelure. Ces plumes ainsi posées rappelaient les antennes des scarabées et donnaient à ceux qui en étaient coiffés une bizarre apparence d'insecte. Les tambours, vêtus d'une simple cotte plissée et nus jusqu'à la ceinture, frappaient avec des baguettes en bois de sycomore la peau d'onagre de leur caisse au ventre bombé, suspendues à un baudrier de cuir, d'après le rythme que leur indiquait en tapant dans ses mains un maître tambour qui se retournait souvent vers eux. Après les tambours venaient les joueurs de sistre, qui secouaient leur instrument par un geste brusque et saccadé, et faisaient sonner, à intervalles mesurés, les anneaux de métal sur les quatre tringles de bronze. Les tambourins portaient transversalement devant eux leur caisse oblongue, rattachée par une écharpe passée derrière le col, et frappaient à plein poing la peau tendue aux deux bouts. Chaque corps de musique ne comptait pas moins de 200 hommes, mais l'ouragan de bruit que produisaient clairons, tambours, sistres, tambourins, et qui eût fait saigner les oreilles dans l'intérieur d'un palais, n'avait rien de trop éclatant ni de trop formidable sous la vaste coupole du ciel, au milieu de cet immense espace, parmi ce peuple bourdonnant, en tête de cette armée à lasser les nomenclateurs, qui s'avançait avec le grondement des grandes eaux. Était-ce trop d'ailleurs de 800 musiciens pour précéder un pharaon bien-aimé d'Amun-Ra, représenté par des colosses de basalte et de granit de 60 coudées de haut, ayant son nom écrit dans des cartouches sur des monuments impérissables et son histoire sculptée et peinte sur les murs des salles hypostyles, sur les parois des pylônes, en interminables bas-reliefs, en fresques sans fin? Était-ce trop en vérité pour un roi soulevant par leur chevelure 100 peuples conquis et du haut de son trône morigénant les nations avec son fouet, pour un soleil vivant brûlant les yeux éblouis, pour un dieu à l'éternité près? Après la musique arrivaient les captifs barbares, à tournures étranges, à masques bestiales, à peau noire, à chevelure crépue, ressemblant autant au singe qu'à l'homme, et vêtus du costume de leur pays. Une jupe au-dessus des hanches est retenue par une bretelle unique, brodée d'ornements de couleurs diverses. Une cruauté ingénieuse et fantasque avait présidé à l'enchaînement de ces prisonniers. Les uns étaient liés derrière le dos par les coudes, les autres par les mains élevées au-dessus de la tête, dans la position la plus gênante. Ceux-ci avaient les poignets pris dans des cangues de bois, ceux-là, le col étranglé dans un carcan ou dans une corde qui enchaînait toute une file, faisant un nœud à chaque victime. Il semblait qu'on eût pris plaisir à contrarier autant que possible les attitudes humaines en garrottant ces malheureux qui s'avançaient devant leur vainqueur d'un pas gauche et contraint, roulant de gros yeux et se livrant à des contorsions arrachées par la douleur. Des gardiens marchant à côté d'eux réglaient leur allure à coups de bâton. Des femmes basanées, aux longues tresses pendantes, portant leurs enfants dans un lambeau d'étoffe noué à leur front, venaient derrière, honteuses, courbées, laissant voir leur nudité grêle et difforme, vil troupeau dévoué aux usages les plus infimes. D'autres, jeunes et belles, la peau d'une nuance moins foncée, les bras ornés de larges cercles d'ivoire, les oreilles allongées par de grands disques de métal, s'enveloppaient de longues tuniques à manches larges, entourées au col d'un ourlet de broderies et tombant à plis fins et pressés jusque sur leurs chevilles où bruissaient des anneaux. Pauvres filles arrachées à leur patrie, à leurs parents, à leurs amours peut-être, elles souriaient cependant à travers leurs larmes, car le pouvoir de la beauté est sans bornes, l'étrangeté fait naître le caprice, et peut-être la faveur royale attendait-elle une de ces captives barbares dans les profondeurs secrètes du gynécée. Des soldats les accompagnaient et les préservaient du contact de la foule. Les porte-étendards venaient ensuite, élevant les hampes dorées de leurs enseignes, représentant des barils mystiques, des éperviers sacrés, des têtes d'Hâthor surmontées de plumes d'autruche, des ibex ailés, des cartouches historiées au nom du roi, des crocodiles et autres symboles religieux ou guerriers. À ces étendards étaient nouées de longues cravates blanches, ocellées de points noirs que le mouvement de la marche faisait gracieusement voltiger. À l'aspect des étendards annonçant la venue du pharaon, les députations de prêtres et de notables tendirent vers lui leurs mains suppliantes ou les laissèrent pendre sur leurs genoux les paumes tournées en l'air. Quelques-uns même se prosternèrent, les coudes serrés au long du corps, le front dans la poudre, avec des attitudes de soumission absolue et d'adoration profonde. Les spectateurs agitaient en tous sens leurs grandes palmes. Un héros ou lecteur, tenant à la main un rouleau couvert de signes hiéroglyphiques, s'avança tout seul entre les porte-étendards et les turiféraires qui précédaient la litière du roi. Il proclamait d'une voix forte, retentissante comme une trompette d'airain, les victoires du pharaon. Il disait les fortunes des divers combats, le nombre des captifs et des chars de guerre enlevés à l'ennemi, le montant du butin, les mesures de poudre d'or, les dents d'éléphant, les plumes d'autruche, les masses de gomme odorante, les girafes, les lions, les panthères et autres animaux rares. Il citait le nom des chefs barbares tués par les javelines ou les flèches de sa majesté, l'Aroéris tout-puissant, le favori des dieux. À chaque énonciation, le peuple poussait une clameur immense et, du haut des talus, jetait sur la route du vainqueur de longues branches vertes des palmiers qu'il balançait. Enfin, le pharaon parut. Des prêtres, se retournant à intervalles égaux, allongeaient vers lui leurs amchirs après avoir jeté de l'encens sur les charbons allumés dans la petite coupe de bronze, soutenue par une main emmanchée d'une espèce de sceptre, terminée à l'autre bout par une tête d'animal sacré, et marchaient respectueusement à reculons, pendant que la fumée odorante et bleue montait aux narines du triomphateur, en apparence indifférente à ses honneurs, comme une divinité de bronze ou de basalte. 12 oéris ou chefs militaires, la tête couverte d'un léger casque surmonté d'une plume d'autruche, le torse nu, les reins enveloppés d'un pagne à plis roides, portant devant eux leurs targes suspendues à leur ceinture, soutenaient une sorte de pavois sur lequel posait le trône du pharaon. C'était un siège à pieds et à bras de lion, au dossier élevé, garni d'un coussin débordant, orné sur sa face latérale d'un lacis de fleurs roses et bleues. Les pieds, les bras, les nervures du trône étaient dorés, et de vives couleurs remplissaient les places laissées vides par la dorure. De chaque côté du brancard, quatre flabellifères agitaient au bout de hampes dorées d'énormes éventails de plumes d'une forme semi-circulaire. Deux prêtres soulevaient une grande corne d'abondance richement ornementée, d'où retombaient en gerbe de gigantesques fleurs de lotus. Le pharaon était coiffé d'un casque allongé en mitre, découpant par une échancrure la conque de l'oreille et se rabattant vers la nuque pour la protéger. Sur le fond bleu du casque scintillait un semis de points semblables à des prunelles d'oiseaux et formés de trois cercles noirs, blancs et rouges. Un liséré écarlate et jaune en garnissait le bord, et la vipère symbolique, tordant ses anneaux d'or sur la partie antérieure, se redressait et se rengorgeait au-dessus du front royal. Deux longues barbes cannelées et de couleur pourpre flottaient sur les épaules et complétaient cette coiffure d'une majestueuse élégance. Un large gorgerin à sept rangs d'émaux, de pierres précieuses et de perles d'or, s'arrondissait sur la poitrine du pharaon et jetait de vives lueurs au soleil. Pour vêtements supérieurs, il portait une espèce de brassière quadrillée de rose et de noir, dont les bouts allongés en bandelettes tournaient plusieurs fois autour du buste et le serraient étroitement. Les manches, coupées à la hauteur du biceps et bordées de lignes transversales d'or, de rouge et de bleu, laissaient voir des bras ronds et forts, dont le gauche était garni d'un large poignet de métal, destiné à amortir le frôlement de la corde lorsque le pharaon décochait une flèche de son arc triangulaire, et dont le droit, orné d'un bracelet composé d'un serpent enroulé plusieurs fois sur lui-même, tenait un long sceptre d'or terminé par un bouton de lotus. Le reste du corps était enveloppé d'une draperie du plus fin lin à plis multipliés, arrêtée aux hanches par une ceinture imbriquée de plaquettes en émail et en or. Entre la brassière et la ceinture, le torse apparaissait, luisant et poli comme le granit rose travaillé par un ouvrier habile. Des sandales à pointes recourbées, pareilles à des patins, chaussaient ses pieds étroits et longs, rapprochés l'un de l'autre comme les pieds des dieux sur les murailles des temples. Sa figure lisse, imberbe, aux grands traits purs, qu'il ne semblait au pouvoir d'aucune émotion humaine de déranger et que le sang de la vie vulgaire ne colorait pas, avec sa pâleur morte, ses lèvres serrées, ses yeux énormes, agrandis de lignes noires, dont les paupières ne s'abaissaient non plus que celles de l'épervier sacré, inspirait par son immobilité même une respectueuse épouvante. On eût dit que ses yeux fixes ne regardaient que l'éternité et l'infini. Les objets environnants ne paraissaient pas s'y refléter. Les satiétés de la jouissance, le blasement des volontés satisfaites aussitôt qu'exprimées, l'isolement du demi-dieu qui n'a pas de semblable parmi les mortels, le dégoût des adorations et comme l'ennui du triomphe, avaient figé à jamais cette physionomie, implacablement douce et d'une sérénité granitique. Osiris jugeant les âmes n'eût pas eu l'air plus majestueux et plus calme. Un grand lion privé, couché à côté de lui sur le brancard, allongeait ses énormes pattes comme un sphinx sur son piédestal et clignait ses prunelles jaunes. Une corde, attachée à la litière, reliait au pharaon les chars de guerre des chefs vaincus. Il les traînait derrière lui comme des animaux à la laisse. Ces chefs, à l'attitude morne et farouche, dont les coudes rapprochés par une ligature formaient un angle disgracieux, vacillaient gauchement à la trépidation des chars que menaient des cochers égyptiens. Ensuite venaient les chars de guerre des jeunes princes de la famille royale, des chevaux de race pure, aux formes élégantes et nobles, aux jambes fines, aux jarrets nerveux, à la crinière taillée en brosse, les traînaient, attelés deux à deux, en secouant leurs têtes empanachées de plumes rouges, ornées de têtières et de frontaux à bossettes de métal. Un timon courbe appuyait sur leurs garrots, garnis de panneaux écarlates, deux sellettes surmontées de boules en airain poli, et que réunissait un joug léger, infléchi comme un arc dont les cornes rebrousseraient. Une sous-ventrière et une courroie pectorale richement piquées et brodées de riches housses rayées de bleu ou de rouge et frangées de houppes complétaient ce harnachement solide, gracieux et léger. La caisse du char, peinte de rouge et de vert, garnie de plaques et de demi-sphères de bronze, semblable à l'umbo des boucliers, était flanquée de deux grands carquois posés diagonalement en sens contraire, dont l'un renfermait des javelines et l'autre des flèches. Sur chaque face, un lion sculpté et doré, les pattes en arrêt, le mufle plissé par un effroyable rictus, semblait rugir et vouloir s'élancer sur les ennemis. Les jeunes princes avaient pour coiffure une bandelette qui serrait leurs cheveux et où s'entortillait, en gonflant sa gorge, la vipère royale. Pour vêtements, une tunique ornée au col et aux manches de broderies éclatantes et cerclée à la taille d'un ceinturon de cuir fermé par une plaque de métal gravée d'hiéroglyphes. À ce ceinturon était passé un long poignard à lame d'airain triangulaire dont la poignée cannelée transversalement se terminait en tête d'épervier. Sur le char, à côté de chaque prince, se tenait le cocher chargé de conduire le char pendant la bataille, et l'écuyer occupé à parer avec le bouclier les coups dirigés vers le combattant, pendant que lui-même décochait les flèches ou dardait les javelines puisées aux carquois latéraux. À la suite des princes arrivaient les chars, cavalerie des Égyptiens, au nombre de 20 000, chacun traîné par deux chevaux et monté par trois hommes. Ils s'avançaient par 10 de front, les essieux se touchant presque et ne se heurtant jamais, tant l'habileté des cochers était grande. Quelques chars moins pesants, destinés aux escarmouches et aux reconnaissances, marchaient en tête et ne portaient qu'un seul guerrier, ayant, pour garder les mains libres pendant la bataille, les rênes de son attelage passées autour du corps. Avec quelques pesées à droite, à gauche ou en arrière, il dirigeait et arrêtait ses chevaux. Et c'était vraiment merveilleux de voir ces nobles bêtes qui semblaient abandonnées à elles-mêmes, guidées par d'imperceptibles mouvements, conservèrent une imperturbable régularité d'allure. Sur un de ces chars, l'élégant Amosis, le protégé de Nofré, dressait sa haute taille et promenait ses regards sur la foule, en cherchant à y découvrir Tahoser. Le piétinement des chevaux, contenus à grand-peine, le tonnerre des roues garnies de bronze, le frisson métallique des armes, donnaient à ce défilé quelque chose d'imposant et de formidable, fait pour jeter la terreur dans les âmes les plus intrépides. Les casques, les plumes, les boucliers, les corselets papelonnés d'écailles vertes, rouges et jaunes, les arcs dorés, les glaives d'airain, reluisaient et flamboyaient terriblement au soleil ouvert dans le ciel, au-dessus de la chaîne libyque, comme un grand œil osirien, et l'on sentait que le choc d'une pareille armée devait balayer les nations, comme l'ouragan chasse devant lui une paille légère. Sous ces roues innombrables, la terre résonnait et tremblait sourdement, comme si une catastrophe de la nature l'eût agitée. Aux chars succédèrent les bataillons d'infanterie, marchant en ordre, le bouclier au bras gauche, et, suivant leur arme, la lance, le harpé, l'arc, la fronde ou la hache à la main droite. Les têtes de ces soldats étaient couvertes d'armets ornées de deux mèches de crin, leur corps sanglé par une ceinture cuirasse en peau de crocodile. Leur air impassible, la régularité parfaite de leurs mouvements, leur teint de cuivre rouge foncé encore par une expédition récente aux régions brûlantes de l'Éthiopie supérieure, la poudre du désert tamisée sur leurs vêtements, inspiraient l'admiration pour leur discipline et leur courage. Avec de tels soldats, l'Égypte pouvait conquérir le monde. Ensuite venaient les troupes alliées, reconnaissables à la forme barbare de leurs casques, pareilles à des mitres tronquées ou surmontées de croissants embrochés dans une pointe. Leurs glaives aux larges tranchants, leurs haches tailladées, devaient faire d'inguérissables blessures. Des esclaves portaient le butin annoncé par le héros sur leurs épaules ou sur des brancards, et des belluaires traînaient en laisse des panthères, des guépards s'écrasant contre terre comme pour se cacher, des autruches battant des ailes, des girafes dépassant la foule de toute la longueur de leur col, et jusqu'à des ours bruns pris, disait-on, dans les montagnes de la Lune. Depuis longtemps déjà, le roi était rentré dans son palais, que le défilé continuait encore. En passant devant le talus où se tenaient Tahoser et Nofré, le pharaon, que sa litière posée sur les épaules des oéris mettait par-dessus la foule au niveau de la jeune fille, avait lentement fixé sur elle son regard noir. Il n'avait pas tourné la tête, pas un muscle de sa face n'avait bougé, et son masque était resté immobile comme le masque d'or d'une momie. Pourtant, ses prunelles avaient glissé entre ses paupières peintes du côté de Tahoser, et une étincelle de désir avait animé leur disque sombre. Effet aussi effrayant que si les yeux de granit d'un simulacre divin, s'illuminant tout à coup, exprimaient une idée humaine. Une de ses mains avait quitté le bras de son trône et s'était levée à demi. Geste imperceptible pour tout le monde, mais que remarqua un des serviteurs marchant près du brancard et dont les yeux se dirigèrent vers la fille de Pétamounoph. Cependant, la nuit était tombée subitement, car il n'y a pas de crépuscule en Égypte. La nuit, ou plutôt un jour bleu, succédant à un jour jaune. Sur l'azur d'une transparence infinie s'allumaient d'innombrables étoiles, dont les scintillations tremblaient confusément dans l'eau du Nil, agitées par les barques qui ramenaient à l'autre rive la population de Thèbes. Et les dernières cohortes de l'armée se déroulaient encore sur la plaine, comme les anneaux d'un serpent gigantesque, lorsque la cange déposa Tahoser à la porte d'eau de son palais. Fin du chapitre 3. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en juin 2011.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.